Salut à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel et après un break, je reviens très prochainement avec un nouveau format, de nouveaux invités et toujours plus d'apprentissage pour vous aider à mieux évoluer dans ce beau métier qu'est le product management. Avant de plonger dans cette nouvelle saison, je voulais vous proposer de revivre un moment fort de la Product Conf 2023 à Paris, où j'ai eu l'honneur cette année de proposer et d'animer deux échanges, dont celui que vous allez entendre sur le sujet suivant : comment faire du produit ailleurs qu'en start-up. La salle était pleine à craquer et il y avait une énergie dingue et plein de good vibes. Je vous laisse tranquillement vous immerger dans le sujet.
Ce format, très bonne activité avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger. Donc, vers la fin du format, on prendra un moment pour discuter. Pour les personnes ici présentes qui ne me connaissent pas, je suis Axel Souria, je suis le cofondateur de Panache, un product studio. Je suis également le créateur et hôte de Product Squad, qui, paraît-il, est le podcast produit le plus écouté en France, selon le dernier baromètre LPC. Donc merci à vous tous qui êtes auditeurs du podcast. Et j'anime également un podcast en anglais qui s'appelle Product with Panache, où j'invite des leaders du produit en Europe à venir nous partager leurs secrets pour mieux faire du produit, donc notre métier à tous ici présents. D'abord, je voulais vous présenter Gabriel. Et vous allez voir, il va y avoir un petit crescendo dans les présentations. Gabriel, tu es passé par MSN Microsoft, tu es passé par leguide.com. En fait, tu as fait 7 ans au sein de la SNCF pour accompagner la transformation de l'entreprise et la digitalisation de leur plateforme. Tu es une lectrice passionnée et une source intarissable de recommandations de bouquins. Si vous ne savez pas quoi lire à la plage cet été,
on en parle après.
Voilà, vous savez quoi faire. Voilà. Et dans ton temps libre, tu apprends la guitare et tu fais pousser toutes sortes de plantes. On va en reparler. Benjamin, tu es freelance product leader, précédemment VP product chez BlaBlaCar, aujourd'hui en mission chez Carrefour pour aider la transformation vers une pratique du produit. Pour la petite histoire, accrochez-vous à vos chaises. Ben s'est retrouvé à un one-man show d'un humoriste qui était inconnu à l'époque, dans une salle de 50 personnes. Il s'est fait prendre au piège pendant le show, il est monté sur scène et a dû l'embrasser sur la bouche. Un an plus tard, cet humoriste est devenu une star. On ne saura pas qui c'est. Il a donc un super pouvoir qui est de transformer les gens en personnes célèbres. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire à la sortie de ce talk. Tanguy, depuis bientôt 10 ans, tu es chez Atlassian, un éditeur de logiciels de collaboration pour les équipes produits engineering. Des utilisateurs d'Atlassian ici, de Jira, Confluence, etc. Bon, voilà. Une entreprise qui a 20 ans d'existence, qui est présente dans plus de 250 000 entreprises et compte aujourd'hui 10 000 personnes. Tanguy vit à Nice, ce qui lui permet de pratiquer sa passion, l'apnée. Il a un record de plongée autonome en apnée à 92 mètres de profondeur et a déjà représenté l'Australie, où il a vécu 10 ans, au championnat du monde. Donc là, on peut tous rentrer chez nous. Voilà. Et l'idée de la conversation d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un échange autour de ce sujet de comment on arrive à faire du produit dans un contexte autre qu'une start-up. Donc je voulais solliciter mes invités aujourd'hui et un peu m'appuyer sur leurs expériences et leur vécu avec des partages d'expériences concrets. Mais avant de plonger dans cette conversation, Tanguy va nous proposer un petit exercice.
Belle transition.
T'as vu, j'ai dit plonger et tout.
Ah ouais, plonger, j'ai vu. Donc, on va faire un petit exercice de respiration aujourd'hui. Si jamais vous vous retrouvez à devoir faire un talk à la Product Conf un jour ou un truc comme ça, c'est un truc qui est très utile. Mais aussi avoir un meeting un peu désagréable ou un peu avec beaucoup de stress derrière. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de mettre une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de respirer comme on est censé respirer pour pouvoir vraiment être relâché. Donc, c'est surtout pas de respirer d'ici. C'est pas, je sais que tout le temps on vous demande, il faut rentrer le ventre. Non, là on ne fait pas ça du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer du ventre, donc du diaphragme. Donc on va inspirer pendant 4 secondes de la bouche en remplissant le ventre, comme ça. Je peux continuer plus longtemps, mais on va s'arrêter là. Donc faites ça pendant 4 secondes. Et pour l'expiration, vous allez juste fermer et pincer un peu vos lèvres et laisser l'air sortir tout doucement pendant 8 secondes avec les poumons pleins. Voilà, donc maintenant vous allez tous fermer les yeux et on va faire ça. Inspiration, expiration. Inspiration, 1, 2, 3, 4, expiration. Et une dernière, inspiration, 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration et retenir votre souffle jusqu'à la fin de la conférence.
Super, merci beaucoup Tanguy. Bon, on se sent mieux tout de suite. Génial. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour toi, Gabriel. Donc, l'idée, c'était un peu de démystifier un peu le fait que le produit hors startup, ça existe bien, la preuve, voilà. Ça veut dire quoi de ton expérience faire du produit dans un environnement autre qu'une startup ?
Bah, si je prends mes deux dernières expériences chez SNCF et aujourd'hui chez Mythique, ça fait 4 ans que je suis CPO chez Mythique. Les réalités produits, les réalités du travail produit entre ces deux entreprises n'a rien à voir. Donc en dehors des startups, il y a vraiment différents environnements et des façons de faire du produit qui sont complètement différentes. Si je prends SNCF, donc une entreprise gigantesque avec une grosse complexité organisationnelle, un réseau physique de transport avec ses lois, ses contraintes, et là-dedans le produit qui doit servir finalement le voyage, hein, qui est le vrai objet de cette entreprise. Et c'est absolument passionnant de conjuguer les différents enjeux et les différents métiers. Les produits, évidemment, à cette taille d'entreprise. Chez Mythique, aujourd'hui, ce n'est pas une start-up non plus, évidemment, hein, c'est une marque emblématique qui existe depuis plus de 20 ans, 21 ans maintenant. Statistiquement, dans la salle, vous êtes 1 sur 3 à connaître un couple Mythique. Peut-être vous, je ne sais pas. Mythique, c'est 8 millions d'histoires d'amour depuis 21 ans. Ça existe sur 20 pays en Europe. Et c'est 250 personnes basées à Paris, dont plus de la moitié des collaborateurs sont dans le département produits et tech. Donc une entreprise product-centrique, complètement, depuis le départ, et pour reprendre les mots de Mélissa Perry, business is product, clairement. Donc c'est des réalités qui sont complètement différentes. 100% du business est porté par le produit et l'expérience qu'on propose à nos utilisateurs, une expérience de rencontre. Et cette réalité-là, c'est la réalité d'un marché mature, parce que le dating, ça existe depuis plus de 20 ans, et c'est un marché qui est aussi extrêmement compétitif. Donc on a des enjeux qui sont assez différents d'un grand groupe où il y a un vrai travail de conviction auprès des stakeholders, etc. Mais c'est des enjeux de croissance, de fidélisation d'une base client existante qui est très attachée, surtout qu'on est sur un produit B2C, hein, donc ça fait vraiment partie de leur quotidien, de différenciation vis-à-vis des concurrents en permanence, et un vrai enjeu aussi d'innovation, d'extension sur des nouveaux marchés et de façon de se renouveler. Il y a un travail effectivement constant à faire entre, et c'est vraiment un chemin à trouver, hein, entre cette partie optimisation, amélioration de l'expérience, parce qu'il faut écouter en permanence son marché, c'est la société, l'évolution de la société, l'évolution de, pour nous, des codes du digital, des codes amoureux, et un travail à faire sur l'innovation pour se renouveler et aller s'étendre aussi sur d'autres opportunités et d'autres marchés. Donc il faut organiser cette innovation, puisqu'on est sur des entreprises, des marchés matures, qui vont avoir tendance à limiter les risques si elles le peuvent, par nature, c'est normal. Et donc il faut organiser l'innovation dans l'entreprise pour lui laisser une vraie place et lui donner un vrai cadre.
Et
voilà ce que je peux dire.
Merci. Et Tanguy, toi, tu as aussi vu ça chez Atlassian. Donc, je disais, ça fait un petit peu plus de 10 ans que tu y es. Atlassian, aujourd'hui, c'est 10 000 personnes. Comment tu fais du produit dans une boîte comme Atlassian et ça veut dire quoi, finalement, faire du produit dans une boîte de 10 000 personnes ?
Alors, je vais peut-être rebondir un peu sur un point dont, Gabriel, tu parlais, qui était l'aspect innovation. Donc, une boîte comme Atlassian, on est présent dans 250 000 clients. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, en gros, on est un peu partout. Il y a beaucoup d'ubiquité des produits. Ça veut dire qu'on a aussi énormément, énormément d'opportunités. Dans quoi on pourrait essayer d'aller jouer. Tous les jours, il y a un nouveau compétiteur de Jira. Tous les jours, il y a une nouvelle startup qui se crée, qui est dans un domaine qui nous est cher, qui est la collaboration entre les équipes. On pourrait racheter des boîtes, on pourrait créer des produits concurrents, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout le temps. Et le boulot du produit dans une boîte comme Atlassian, c'est vraiment beaucoup d'essayer de trouver les paris qui sont les bons. Et comment essayer de tester ces paris le plus rapidement possible pour voir si on se concentre sur les paris sur lesquels on est en ce moment, ou si on doit finalement investir dans des nouveaux endroits. Donc Atlassian aujourd'hui a des produits qui sont très successful, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de produits qui ont terminé dans un cimetière. Donc, le boulot du product manager, c'est vraiment chez nous ça. Il y a des produits qui sont très matures, qui ont déjà beaucoup de clients, des millions d'utilisateurs, et on en a d'autres qui ont zéro utilisateur aujourd'hui. On est vraiment en train d'essayer de les tester. C'est un peu deux crafts différents, je veux dire, qu'on a dans la boîte.
Comment tu fais ? C'est super intéressant ce que tu racontes. En fait, dans ce que j'entends, il y a aussi le fait de se dire, ben, c'est quand même une entreprise qui est présente dans... Voilà, il y a beaucoup de clients, il y a une base client importante qui fait du chiffre, etc. Donc, il y a une forme de recette, entre guillemets, du succès, donc de quelque chose que vous savez faire plutôt bien. Comment tu te crées l'espace dans une entreprise de cette taille-là pour aller faire quelque chose qui est peut-être nouveau ?
Alors ça, on est passé par des vagues dans Atlassian de comment on approche justement l'innovation. Pendant un moment, on innovait en créant nos propres produits et vraiment l'innovation était en interne. Après, ça s'est un peu perdu et l'innovation se faisait plutôt par rachat. Donc, moi, j'ai bossé sur le rachat de StatusPage, OpsGenie pour investir plus dans le côté opérationnel, par exemple, pour les équipes de dev. Plus récemment, on est plus reparti maintenant sur l'innovation en interne. Je ne peux pas dire qu'il y a une recette miracle, mais en fait, il y a un peu deux forces qui se mettent en place. Il y a une force qui est très top-down, donc qui va venir des fondateurs de la boîte, généralement, en disant, voilà, on veut investir dans tel ou tel marché. Mais après, il y a une très grande force dans une boîte comme Atlassian qui est plutôt bottom-up, qui vient des product managers qui décident, voilà, moi, mon boulot, j'ai été embauché, c'est pas pour exécuter tel projet, c'est pas pour faire marcher tel produit. Mon boulot, c'est de rendre Atlassian, c'est de faire en sorte que la boîte soit successful. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où chaque product manager va se dire, voilà, mon équipe, ce qu'on nous a demandé de faire, ça marche bien. Je vais disparaître pendant 3 mois. J'ai fait ça plusieurs fois. Je pars en vacances internes pendant 3 mois pour essayer de voir.
Il n'y a pas beaucoup de boîtes où tu peux faire ça.
Alors, ça commence avec un truc. Tu commences à montrer, voilà, on m'a donné telle et telle mission. Ben voilà, tic, tic, tic. Ça, c'est très bien fait.
Tout le monde a vraiment apprécié. C'est construire la crédibilité, la confiance.
Donc, il y a beaucoup de communication en interne chez nous qui fonctionne en termes de blog, on a beaucoup de forums où on peut parler directement avec les fondateurs. Il y a une énorme culture de collaboration interne qui est flat. Donc, à partir de là, c'est assez facile de développer de la visibilité si on a des idées qui sont fortes dans un domaine précis si on est juste en train d'essayer de faire le boulot jour après jour et etc., etc. Donc, cette crédibilité au début, voilà, je pouvais bosser sur une petite équipe, après une plus grosse équipe, après des trucs qui sont featured dans les keynotes ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, ça devient,
tu es en train de construire une forme de capital confiance, qu'à un moment, tu pourras échanger contre une opportunité ou quelque chose comme ça.
Voilà, j'avais un petit peu des chips. J'ai des chips, là, au début, j'en avais eu.
Des jetons.
Il m'a fallu 15 entretiens pour rentrer à Atlassian. Il voulait pas de moi du tout quand je suis rentré. donc, j'avais 0 chip. Et puis, j'ai eu une chip, 2 chips, 3 chips. Puis, à la fin, j'avais un gros paquet de chips comme ça. Et j'ai décidé de tout mettre dans les produits sur lesquels je bosse en ce moment, là, qui est un Jira Product Discovery, un Jira pour les product managers. J'ai dit, on va tout mettre là-dedans. Et puis, si ça foire, tant pis pour moi, je repars à zéro. Par contre, si ça marche, ça peut vraiment être super. Donc, ça m'a permis en tant que product manager de me créer de l'espace. Et finalement, on a fini par créer une équipe entièrement en Europe, alors que c'était pas la stratégie de la boîte. Et d'avoir un produit qui grossit très, très, très vite, alors que c'était pas du tout dans les aspects prioritaires de la boîte. Mais ça s'est fait vraiment en créant du capital interne, comme tu disais, et en l'investissant progressivement de plus en plus. Mais il y a plein de petites techniques comme ça, genre prendre des vacances en interne, multiplier l'innovation le plus possible dans les équipes, faire en sorte que ce ne soit pas uniquement les product managers qui fassent ça, mais qu'on soit en permanence product manager, designer, ingénieur ensemble, comme le talk de ShapeUp juste avant, là, à créer des prototypes, à les tester avec des clients, à avoir des retours très rapides, à être capable de raconter ces histoires à notre leadership. Donc, plein de techniques de communication interne. Alors, ça, c'est très important. Ce n'est pas comme une startup où on a une conviction, on a des clients ou pas. Mais on peut parler avec des gens, on peut faire des trucs, on peut aller très vite. Là, il faut en permanence convaincre. Donc, un peu créer une espèce de bulle dans laquelle on peut faire ça, et tout en projetant une image de, pas forcément de succès, parce que la moitié des trucs sur lesquels j'ai bossé ont foiré, mais une énergie qui est instoppable. Et si on arrive à créer ça, et cette communication qui fait que on n'a pas envie de toucher à cette équipe parce que oulala, ils font des trucs et on veut pas arrêter un truc qui va vite, c'est ce qui, en tout cas, moi, m'a permis de faire ce genre de truc-là dans la boîte.
Comment tu vis ça, Ben? Je sais que depuis peu, tu es chez Carrefour, donc t'accompagnes un peu la transformation. Est-ce que tu te retrouves dans ce que disent Gabriel et Tanguy? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as dû faire en arrivant dans une boîte de la taille de Carrefour?
Ouais, je pense que c'est assez différent, parce que je pense qu'il y a tellement de boîtes différentes.
Bien
que,
sûr, ouais.
Que, voilà, et il y a un contraste que tu faisais, Gabriel, que moi je retrouve beaucoup chez Carrefour. Le contraste que tu faisais entre la SNCF et Mythic, où Mythic, c'est vraiment une boîte autour du produit, autour de la tech, avec un asset principalement digital. Et la SNCF, des assets physiques énormes. Bah, Carrefour, c'est pareil. Carrefour, leur métier, c'est pas la tech, c'est pas le produit. Donc quand on arrive et qu'on veut faire du produit dans une boîte comme ça, où en fait le métier c'est de vendre des boîtes de petits pois, quoi, hein, dans un supermarché, c'est de faire des courses en drive, tout ça, bah, y a vraiment un poids business dont parlait Mélissa, qui est très fort. Et donc quand elle faisait cette image de réunir le produit et le business, Carrefour, ils en sont, on en est exactement là, à rapprocher énormément ces équipes. Parce que par exemple, quand vous faites du product, très concrètement, donc moi j'ai commencé par travailler beaucoup avec les équipes e-commerce, donc c'est par exemple les équipes qui gèrent le site sur lequel vous pouvez faire vos courses en drive. Bah, l'irritant principal du client qui fait ses courses en drive, c'est quand il manque un article dans la commande qu'il récupère. Donc quand vous faites du produit et que votre produit c'est ça, l'irritant en fait il est opérationnel, il n'est pas lié à la tech, vous ne pouvez pas aller voir un développeur en disant on va régler ci, on va régler ça. Et donc il est vraiment beaucoup plus du côté du business. Donc si vous voulez bien faire votre métier de product, dans un environnement comme ça, eh ben, il faut commencer par bien comprendre comment fonctionne le business opérationnel. Et inversement, si vous voulez avoir une relation avec le business qui ne soit pas justement, et c'est tout le but de la transformation qu'ils sont en train de faire, hein, qui ne soit pas le métier qui arrive et qui dit « moi je veux telle fonctionnalité comme ci, comme ça, parce que j'ai compris le besoin du client, parce que je suis plus proche de lui que toi », eh ben, il faut aussi que vous créez une relation beaucoup plus forte. Donc ils sont en train de faire ça, ce qu'ils appellent le 4 in the box, qui est quelque chose qui s'est aussi implémenté chez Walmart, donc qui est pas voilà, qui est quelque chose qui se développe pas mal dans cette industrie là. On parle souvent quand on fait du produit de ce trio un peu PM, product designer et puis tech. Ouais. Bah là il y a quand même voilà ce quatrième pôle qui est hyper important, qui est le business. Mmh. Avec tous les progrès qu'on a fait récemment là, c'est de rapprocher le produit et le business. Quand on voit qu'un PM se met à parler le langage du business et inversement, quand on voit du business qui commence à nous parler de discovery, bah là on commence
à gagner. T'as gagné des petites batailles déjà.
Là on a quelques chips.
Et Gabriel, tout à l'heure tu parlais de marché mature. Comment tu fais quand t'es dans un marché où en fait tous les ans, tous les trimestres, il y a un acteur émergent du monde de dating qui se présente, et on parle souvent d'innovation défensive ou offensive. Comment tu gères ça dans un marché de cette maturité-là?
Effectivement, c'est un marché. Le dating, c'est un marché qui est très très compétitif, avec effectivement toujours des nouveaux acteurs. Et dans une entreprise comme Mythic, et voilà, leader sur son secteur, présente sur 20 pays depuis longtemps, il y a cette obligation, j'en parlais tout à l'heure, hein, l'importance d'aller effectivement interroger l'évolution des codes, l'évolution des marchés, pour continuer à innover. Et ça fait partie de l'ADN de Mythic. Et dans les grands groupes qui ne sont pas des startups, on a aussi beaucoup de data, beaucoup de verbatim client, donc beaucoup de matière pour aller travailler ça. Comment on s'organise? Parce que ce qui est important, c'est réellement, je le disais tout à l'heure, de cadrer cette innovation et de trouver, comme tu le disais, effectivement, des façons d'offrir du temps et un espace d'autonomie à des équipes pour aller tester des choses. En 2017, par exemple, on a consacré une équipe à construire une nouvelle app dédiée aux seniors, aux 50+. En 2017, il n'y avait aucune application d'éthique qui s'adressait à ce marché-là. Pourtant, 9 millions de célibataires ont plus de 50 ans. Et aujourd'hui, c'est, disons, demain en France, à Hortheim, en Europe. Et ça fonctionne très bien. Là, on vient de lancer une appli aussi pour les parents célibataires. Donc, c'est comme ça. C'est en adressant aussi des nouveaux marchés, parce qu'on a des signaux et qu'on sent qu'effectivement, il y a une demande forte. Donc, il faut être toujours à l'écoute de son marché. Et en termes d'organisation, on dédie des équipes. Alors, on est organisé comme beaucoup d'entre vous en squad. Alors, nous, on les appelle des teams par mission, mais c'est des impact teams dans beaucoup d'autres entreprises. Et donc, on va définir une équipe avec un objectif, un horizon de temps et un objectif très concret, mesurable ou pas, c'est important, parce que ça dépend des missions, en leur offrant un terrain de jeu pour venir tester des nouveaux usages. Je prends un exemple. On a dédié une équipe entière à venir explorer des nouveaux usages de dating. Donc là, il n'y avait pas d'impact précis attendu à la fin, mais une liberté de venir expérimenter et défricher ce que peut être le futur du dating. Donc comment est-ce qu'on va faire du dating demain avec plus de live, plus spontané, du real time, peut-être moins de pression que le système qu'on connaît aujourd'hui. Et cette équipe-là a pu expérimenter, tester des concepts, apprendre sprint après sprint sans chercher à avoir un produit fini.
Donc ils ont de l'espace.
Ils ont de l'espace. Mais bien sûr, il faut le limiter à un certain nombre de ressources et à un temps donné. Parce qu'il s'agit effectivement de créer ce terrain de jeu. Et de là est née une fonctionnalité qu'on a scalée ensuite en Europe, qui sont les live rooms et qui sont une autre façon de se rencontrer. Mais voilà, il faut vraiment, pour moi, créer les conditions de cette innovation, de cette expérimentation. Et puis, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Mais ce n'est pas grave. Il faut perpétuellement tester et s'offrir ce terrain-là.
Oui, il y a aussi une question de sécurité psychologique, de se dire... on ne m'attend pas forcément tout de suite avec un plan business pour ce truc que je dois explorer. Donc, j'ai un peu d'espace. Je peux prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui va vraiment impacter le business.
Ouais.
Et moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup. J'ai la chance de parler à beaucoup de product managers. C'est que les personnes qui veulent aller travailler dans des plus grandes organisations me disent comment je vais faire pour avoir de l'impact. Parce qu'en fait, je vais être une personne au milieu de tous ces, de tous ces gens-là, de toute cette organisation. Comment je mesure l'impact que j'ai à l'échelle de la boîte pour laquelle je travaille? C'est quoi votre point de vue là-dessus?
Je voudrais bien rebondir là-dessus aussi et dire des trucs super intéressants. On a eu exactement le même type de cheminement à Atlassian aussi avec... à un moment donné, il faut aider... Je me souviens d'avoir bossé dans des banques et tout ça avant où il y avait des fonctions innovation et c'était tellement codifié ce qui était possible. Donc, dans ce terrain de jeu, il y a tellement peu de choses qu'on pouvait faire finalement que c'était vraiment pour faire mumuse, quoi. Et quand je suis arrivé à Atlassian, je me suis aperçu qu'au début, on pensait vraiment qu'on pouvait faire de l'innovation en interne et qu'il n'y a pas besoin de créer ce genre de framework et que ça va se faire tout seul. Ça marche jusqu'à une certaine taille, ça marchait bien jusqu'à 700-800 personnes. Maintenant, on est 10 000, ça marche plus comme ça. Moi, en tant que product manager, j'ai pitché, je crois, 3-4 produits à Atlassian. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti du truc. Les trois premiers, je les ai pitchés sans qu'il y ait vraiment de structure pour faire ça. Et c'était... moi, je voyais vraiment ma mission en étant, allez, il faut... On a plein de marchés sur lesquels il faut qu'on aille. Je vais en choisir un et on va exécuter. Et en fait, le problème de ne pas avoir de structure autour de ça qui crée ce terrain de jeu, c'est que c'est un boulot de tous les jours et de nager en contre-courant en permanence au point que c'est limite impossible d'arriver au bout. Mais par contre, ce que ça peut aider en faisant des choses comme ça et en pitchant, c'est que ça peut montrer au leadership qu'il y a un truc qui manque si on n'est pas capable d'aller vers des opportunités qu'on voit qui sont là, à un produit qu'on puisse sortir et qu'on puisse tester, il y a un problème. Donc après, on a bossé pendant 6 mois à créer une structure en interne qui s'appelle Point A, qui n'est pas vraiment un incubateur, c'est plus il y a un peu de budget, on va demander à tout le monde de pitcher et on va être capable de donner une équipe de 5-10 personnes pour bosser sur un pitch. Et avec des espèces d'étapes. Première étape, exploration, wonder, qui est un peu de se demander sur quoi on va aller, définir un marché, définir à peu près une solution. Après, exploration de solutions et des questions à répondre à chacune de ces étapes-là. Ça a permis que le quatrième produit que j'ai pitché, il a pu y aller. Mais il y a dû avoir vraiment le leadership à un moment donné qui a dit c'est important, il faut qu'on investisse. C'était pas beaucoup au départ et puis ça a grossi. Donc il y a une centaine de produits qu'on pitché et il y en a 3 derrière qui sont sortis. Alors, ça s'est fait en plusieurs vagues, mais c'est très difficile de faire l'un sans l'autre. Et on a remarqué que ce qui marchait le mieux dans les produits qui sortaient derrière, c'était lié à ton point qui est il faut vraiment qu'il y ait un lien très fort entre la partie tech, produit et business. Et pour nous, le business et la tech, c'est vraiment lié. Sauf qu'il faut vraiment que le produit qui sorte il soit en adéquation avec le business model d'Atlassian. Donc, OK, au départ, on ne sait pas dans les explorations de produits qu'il va y avoir, que ce soit par exemple un truc de VR, de réalité virtuelle ou autre. On ne peut pas tout à fait créer un lien entre ça et comment on va le monétiser et autres. Mais il y a un moment donné, il faut qu'on soit capable de répondre à ça. Par exemple, il y a un paquet de produits qui sortait de ça, de concept, qui ne marcherait que s'il y avait un consultant sur place pour pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas notre business model. On n'a pas de consultants, on a très peu d'équipes de vente. C'est vraiment, il faut que les clients puissent aller en ligne, sign up, essayer le truc et l'adopter. Donc ça veut dire qu'il y a un gros paquet de produits qui existent sur le marché que nous, on ne peut pas avoir. Parce que ça ne fait pas partie de notre business model. Donc c'est tous ces trucs-là, en fait, que la structure, cette structure-là essayait de valider au fur et à mesure. Et ça, ça a tout débloqué à ce niveau-là. Il y a 3 produits qui sont sortis de ça, dont je suis sur lequel je bosse en ce moment.
Ben, il est là, ton impact.
Voilà.
Super.
Mais alors...
Elle a dû ramer.
Voilà. Et je pense que... Mais par contre, là, je pense que j'ai entendu beaucoup de product managers qui sous-estiment l'impact de vraiment mettre de l'énergie dedans, mais aussi sous-estiment le niveau d'énergie qu'il faut mettre pour pouvoir faire bouger les choses.
Oui.
C'est vraiment un peu David contre Goliath en interne, mais c'est possible. Et par contre, il faut
y aller, quoi.
Il faut y aller semaine après semaine, faire des blogs, rencontrer des gens, pitcher des trucs, créer des équipes, recruter des équipes en interne, parce qu'il y en a plein des gens comme ça, des électrons libres dans les boîtes qui veulent bosser ensemble, essayer de trouver des projets sur lesquels on peut bosser ensemble et autres, se créer une petite armée et à partir de là, essayer progressivement de faire changer les choses. C'est possible. Même dans d'autres boîtes comme les banques où j'ai pu bosser avant, c'est juste que c'est plus dur.
Et Ben, sur cette question d'impact, c'est quoi toi, ton vécu J'imagine qu'on dit souvent, quand tu arrives dans une grande entreprise, il faut faire ses preuves. Quand tu arrives dans une boîte qui n'est pas forcément product-centric et tu as ce challenge de transformation, bah comment tu fais pour gagner un peu la confiance des gens autour de toi et pouvoir amorcer un peu ce changement?
C'est sûr, mais dans toute boîte, hein, je pense que quand tu arrives, il faut forcément gagner du crédit dans ce que tu fais. Je crois qu'en tout cas, une boîte comme Carrefour, c'est une boîte qui est très pragmatique parce que la distribution, c'est... moi, je n'ai pas vu toutes les industries, hein, j'en ai vu quelques-unes. C'est la plus dure en termes de concurrence que j'ai vue. Donc, c'est une boîte très pragmatique et c'est une boîte qui réagit très vite aussi parce que c'est sa survie qui en dépend. Quand tu arrives dans une boîte comme ça, moi, il y a une richesse qui m'a frappé, qu'ils ont, qui est un truc de malade. Je n'ai jamais vu autant de données. J'ai jamais vu autant de data quanti. Tout est mesuré et tout est accessible en libre service. Et de données aussi quali parce qu'ils ont plein d'outils beaucoup plus que la plupart des startups.
C'est aussi ça, travailler dans un grand groupe, c'est plus de moyens.
C'est plus de moyens. Et là, il y a une chance et que tu retrouves dans d'autres boîtes, que tu vas retrouver chez SNCF, que tu vas trouver chez Accor et qui sera pas forcément quelque chose que tu retrouveras aussi facilement chez Atlassian, mais en tout cas dans plein de grosses boîtes comme ça, tu as tellement de clients. Carrefour, tu marches 10 minutes dans la rue, tu trouves un client. Donc quand tu veux faire de la discovery, c'est quand même le terrain de jeu, c'est un truc de malade. Tu te poses avec ton designer, tu fais un écran, tu sors dans la rue, tu vas dans le magasin, tu le montres. Si c'était un client de magasin, tu lui montres. Si c'est plutôt un collaborateur de Carrefour, pareil. Et donc en fait, le terrain de jeu est ouf. Donc si tu veux avoir de l'impact, si tu veux faire tes preuves assez vite, en fait, tu as toute la matière pour très vite faire un case. Ça fonctionne beaucoup autour du case et parce qu'il y a ces enjeux de rentabilité énormes, donc il y a ce muscle business très fort, mais avec vraiment toute la data derrière de dispo, quali, quanti, pour backer ton sujet. Donc tu peux très vite avoir du crédit et c'est des boîtes qui réagissent. Carrefour réagit très vite sur, par exemple, des sujets comme ChatGPT, c'est des balles que tout le monde essaye de prendre. C'est vraiment une boîte qui réagit vite sur des sujets comme ça. C'est une boîte qui est capable de faire des POC très vite dans quelques magasins. Là, toute la difficulté du business, c'est que tu as des centaines de magasins rien qu'en France. Mais malgré tout, en fait, il n'y a rien qui empêche les équipes produits qui sont en région parisienne de prendre le téléphone, d'appeler un directeur de magasin, de dire j'ai envie qu'on teste ça. Et tu peux être...
C'est bien accueilli comme démarche.
C'est bien accueilli dans la plupart des magasins qui comprennent que tu viens pour les aider et qui de toute façon comme n'importe quel utilisateur en fait hein, qui est juste content quand tu viens parler avec lui, comprendre c'est quoi son quotidien, comprendre c'est quoi ses pain points et voir comment tu peux les résoudre. Et ça c'est accessible à des nouveaux entrants, c'est assez accessible à des personnes qui sont assez juniors dans la boîte et il y a un cadre dans lequel, tu peux pas faire que ça, mais dans lequel on peut pousser ces projets-là, quoi.
Je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit tous les trois, je pense, depuis tout à l'heure. Il y a un moment où on parle de, Tanguy, tu en as parlé, de monétisation, et tu viens de parler de business case. Mon expérience, c'est que dans les grands groupes, il y a quand même ce muscle commercial qui est beaucoup plus développé, et en fait, tu arrives dans une pratique du produit où, des fois, avant même de savoir exactement quel est le problème que tu vas résoudre et comment tu vas le résoudre, on te demande comment tu vas le monétiser. Et ça, dans l'économie actuelle dans laquelle on vit, c'est quand même hyper important.
Peut-être garder le micro 2 secondes, comme ça après je le reprends. Moi, ça, c'est l'autre truc qui m'a vachement surpris chez Carrefour. À nouveau, pour ce paysage concurrentiel qui est très fort et ces enjeux de rentabilité qui sont très forts, j'ai jamais vu des équipes produits avec un muscle business aussi fort. Généralement, quand on définit le job du PM, on utilise un peu des fois ce diagramme de Venn où on dit bah, t'as le business, t'as la tech et puis t'as l'UX et puis toi t'es à l'intersection des trois. Et en fait, moi quand je regarde un PM, je me dis souvent tiens, il a un cercle qui est plus gros que l'autre. Il y en a qui sont très forts en UX, il y en a qui sont très forts en business. Dans un cadre comme Carrefour, ouais, chaque projet, il va falloir avoir un ROI avec un business case pour dire oui, ça, on pense que ça va se connecter comme ça à notre business, voilà la valeur que ça a créé. Donc ça a un effet super positif, c'est que moi je me suis retrouvé en faisant l'exercice avec les équipes à me poser des questions que sincèrement avant on n'allait pas aussi loin. Ça force à être beaucoup plus exigeant. Par exemple, c'est quoi le coût du churn vraiment? Et on avait un driver sur le churn qui était très clair, de dire attends, si on améliore cette métrique, de combien on va réduire le churn et in fine. Donc pousser une réflexion comme ça aussi loin.
Aussi avec la présence de la data, du coup, tu parlais de data.
Avec toute la data que t'as, c'est un exercice que j'avais jamais fait de façon aussi quali. Le côté le plus négatif de ça, c'est que ça, forcément, ça réduit ta capacité à innover, à expérimenter des choses qui vont faire des percées, parce que c'était pas prévu et on veut tester. Donc il faut savoir se ménager de la place pour les sujets qui n'ont pas un ROI fort. Mais ce qui était intéressant aussi, et après promis je lâche le micro,
très intéressant.
c'est que je crois que ce virage là, beaucoup de boîtes, beaucoup de startups et de scale-up ont été obligés de le faire dans les 18-12 derniers mois, ce virage de on ne peut plus avoir une croissance avec énormément d'argent gratuit ou pas cher et donc faire énormément de paris qui sont financés facilement. Et on est obligé d'être beaucoup plus fort sur la rentabilité, de faire beaucoup plus attention, donc de développer ce muscle-là. Donc je crois que les deux doivent un peu se rapprocher. Les grands groupes doivent être très vigilants à cultiver leur capacité, à avoir quand même un peu cette règle des 10-20% chez Google, de dire en fait, il y a quand même un jour par semaine où il faut faire un truc où on ne sait pas ce que ça va rapporter, mais sinon on n'innovera pas. Et de l'autre côté, je crois que les boîtes un peu plus tech-centric, plus récentes, les startups, les scale-up, doivent apprendre à être un peu plus frugal et plus rentable, quoi.
Gabriel Tanguy, je vous laisse rebondir sur ce que vient de dire Ben, et ensuite on va prendre quelques questions du public. On n'a pas de micro, mais on est dans une petite salle, donc je pense que si vous parlez, on vous entendra.
Merde, j'ai perdu le truc. Attends, ça va revenir. Oui, alors justement sur l'aspect, il faut quand même garder de l'espace pour l'innovation pure. En fait, ça c'est un truc qu'on a découvert. Le plus on pose de questions, le plus le formulaire pour aller pitcher un truc, le plus il est long, et le plus ça va être facile de regarder le truc et dire en fait non. Et donc c'est très facile de tuer des idées qui seraient bonnes en posant, en essayant d'over-analyser beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc c'est pour ça vraiment, si on tombe sur le bon fondateur, donc c'est une personne qui a, donc un founder, ça va être quelqu'un qui est passionné par une mission particulière et qui veut vraiment driver et est prêt à tout faire pour ça. Et si jamais d'ailleurs ça ne se fait pas, sûrement la personne va partir et aller explorer ça ailleurs. S'il y a le bon fondateur ou bonne fondatrice, s'il y a une idée déjà dès le départ de portfolio fit dont tu parlais, il faut quand même que ça s'inscrive dans le business model de la boîte, quoi. Ouais. On peut pas faire des boîtes de petits pois, ça ne marchera pas trop chez Atlassian. Mais s'il y a ces deux aspects-là, l'idée, même si elle est un petit peu floue au départ, ça vaut le coup d'explorer. Et on a vu ça dans les produits qu'on a explorés nous. Alors après, par contre, voilà, dans les grosses boîtes, il y a une tendance d'aller plus sur les trucs qui sont plus ou moins safe.
C'est ça. Donc déjà, il y a un biais quelque part.
Voilà, on va essayer de pousser sur des idées, mais finalement, on va aller sur des trucs qui sont un petit peu adjacents, quoi. Donc après, les innovations plus pures se font plus par rachat chez nous. Moi, le produit sur lequel je bosse, c'est clair, il y a tous les product managers qui sont déjà avec leurs équipes de dev dans Jira. Maintenant, on va leur permettre de bosser avec leurs équipes métiers.
Tu remontes un peu la chaîne de valeur. Et
ouais. Voilà, mais c'est vraiment, hop, on fait un petit pas vers là, un autre petit pas vers là. C'est plus simple, c'est plus safe et c'est une stratégie qui marche. Mais je pense qu'il y a, j'ai pas encore vu vraiment d'énormes innovations qui sortent, qui changent absolument tout, comme l'a déjà fait Microsoft plusieurs fois, par exemple. Ouais. Donc ça m'intéresserait s'il y a quelqu'un de Microsoft. Si vous pouvez venir.
Moi, je vais rebondir sur deux choses rapidement avant les questions. La première, c'est effectivement sur la présence business à l'intérieur des équipes produits. Et alors, intrinsèquement, chez Mythic, on a une équipe growth management qui est forte et présente avec des growth product managers qui accompagnent les PM. Donc, en fait, ça marche en binôme vraiment pour que...
C'est une spécialité, donc, chez vous.
Oui, oui, oui. Toutes les fonctionnalités, les parcours, les améliorations concrètes, on les pense avec aussi cette dimension growth management qui est importante. Donc, c'est pensé dès le départ. Et ça évite d'avoir un pôle qui fait du business et un pôle qui fait de l'expérience. Ce n'est pas le cas. Et c'est important de l'organiser. Et la deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup parlé d'innovation comme si c'était finalement... Alors, bien sûr, c'est glamour et il faut l'organiser à l'intérieur des équipes produits, mais le business cœur, hein, vraiment, l'activité core, elle a un impact dingue et elle est passionnante à travailler aussi. Parce que quand on parlait d'impact sur l'activité, effectivement, au-delà des sujets d'innovation, bah, il suffit parfois de quelques pourcentages dans le haut du funnel ou sur une partie de transformation pour avoir un impact immédiat. Et quand on travaille comme ça dans ces grands groupes et qu'on fait un petit changement parfois dans l'expérience, et récemment on a refondu notre parcours client pour quelque chose voilà de plus efficace, on a reçu des milliers de retours clients. C'est comme ça aussi qu'on mesure l'impact et qu'on voit effectivement la présence et l'importance qu'on a pour nos utilisateurs. Donc le sujet, c'est pas seulement d'innover, hein. c'est aussi d'avoir de l'impact sur son business core et c'est passionnant aussi.
Alors, c'est le bon moment, il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Alors, n'hésitez pas, je vous vois pas très bien parce que j'ai le projecteur dans le visage. Oui, vas-y, je t'en prie.
Bonjour, Hector
Pugat.
Oui. Et j'ai une question, je pense à la priori sur les grands groupes où en fait justement tout va être très sectorisé et quand on est par exemple product manager sur un domaine en particulier très précis. Je me demande dans quelle mesure on a une forme de liberté pour aussi aller chercher un peu au-delà de notre spectre. Et est-ce qu'au final, justement, on n'est pas chevronné dans cet espace-là et à ce moment-là, on se retrouve très vite limité au rôle ou à la partie qu'on a.
Je vais juste répéter pour l'enregistrement et puis à travers le micro. Donc, si je comprends bien, tu dis ton a priori sur les grands groupes, ça veut dire qu'il y a forcément une spécialisation, une verticalisation, une segmentation qui fait qu'au final, on est dans un domaine plutôt, un périmètre plutôt restreint, c'est ça ?
En fait, je pense que ça, c'est vrai aussi dans beaucoup de scale-up, déjà. Et tu vois, dès que l'équipe produit va dépasser, produit et tech va dépasser 20 personnes, qu'il va commencer à y avoir 4, 5 PM, voire plus, à un moment, l'équipe crée de la valeur quand elle a de l'expertise forte sur le domaine qu'elle a. Soit c'est, on s'est structuré autour d'une mission, soit on s'est structuré autour d'une partie de l'expérience, mais en fait, en tant que PM, tu vas... créer énormément de valeur autour de ton expertise. Et après, et pareil, enfin moi en tout cas, je vois exactement le même schéma chez Blabla que chez Carrefour. Tu as énormément de projets qui impliquent plusieurs équipes. Parce que, en fait, dès que tu veux créer une expérience de bout en bout, on va tout de suite impliquer plusieurs équipes. Et donc, si on a une collaboration qui fonctionne bien, tu vas te retrouver autour de la table, à toi à contribuer avec ton expertise, mais aussi à participer et à donner des inputs et à avoir un regard critique sur une partie qui est adjacente à ton produit. Donc, en tout cas, je crois pas qu'on se sente excessivement cornerisé plus que dans une... En tout cas, c'est pas ce que je vois dans les équipes de Carrefour, mais par contre, je crois que c'est une réalité dans toutes les boîtes, petites ou grosses, enfin en tout cas, dès qu'elles sont un petit peu moyennes, il y a un moment où tu crées énormément de valeur parce que tu as une expertise.
C'est spécialisé. Ouais.
Et ça, c'est pas, tu vas pas bloquer toute ta vie. Tu vas bouger. Et d'ailleurs, je crois que dans les grands groupes, ils ont cette habitude presque. C'est un espèce d'automatisme. Parfois, on peut se demander si ça convient à tout le monde, mais de faire tourner assez vite, assez régulièrement oui. Les gens malgré tout.
Et il y a des latéralités, puisque c'est plus grand, donc ça veut dire que tu peux bouger.
Ça dépend vraiment des boîtes. Hein. Mais c'est, comme tu dis, c'est pas petite, moyenne, grosse. J'ai vu ça dans. Avant d'être dans le product management, j'étais dans le conseil, plutôt dans la tech. Et peut-être en tout, j'ai peut-être bossé avec une cinquantaine de boîtes. Et il y a des cultures de boîtes qui facilitent justement l'impact individuel. Et il y a des cultures de boîtes qui sont peut-être un peu plus frileuses et qui facilitent et qui optimisent le process. Alors je pense qu'en tant que product manager, il faut savoir où on se sent confortable. Il y a des product managers, moi je dis 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. pardon, je peux peut-être le dire en français, 0-1, 1-2-2-3. Et moi, je suis plutôt 0-1, donc sur la partie démarrage. Donc, une structure qui ne facilite pas ça. Là où je bosse et là où les équipes avec lesquelles je bosse, on est plutôt là-dessus. Mais après, il y a des boîtes ou même des parties d'Atlassian, par exemple, qui sont plutôt 2-3. Donc, c'est déjà un produit qui marche très bien. Il faut qu'on l'optimise, mais il ne faut surtout pas qu'on y touche trop, parce que celui-là, il marche très bien, par exemple. Donc, il y a... Je pense que c'est plus ce qu'il faut voir vraiment quand on essaie de rentrer dans une boîte en tant que PM, c'est la culture de la boîte et est-ce que ça, c'est en accord avec la façon avec laquelle on aime bosser et finalement d'embaucher sa boîte plutôt autour de ça. Plutôt que de rentrer quelque part, de voir que la culture ne fit pas et qu'on se retrouve un peu coincé, on vient un peu cynique. Et là, c'est dommage. Donc, ouais, je pense qu'il y a c'est du matchmaking mythique pour peut-être un business model, là. Ah non, je suis en train d'écrire le recrutement. Enfin, bref.
J'ai vu d'autres mains levées tout à l'heure, il me semble. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, oui.
Non, chez Carrefour, là, on t'a parlé tout à l'heure de tester une visualisation dans un magasin, par exemple. Comment tu fais pour l'étendre après dans une entreprise où tu vas tester? Ça va être cool. Mais en fait, pour l'étendre sur toute la France, par exemple...
C'est une super question. Alors déjà, donc c'est des centaines de magasins, mais ils sont structurés en trois catégories. Tu as les hyper, donc les très gros en périphérie des villes, les markets qui sont plutôt dans les villes, et ce qu'ils appellent la proxy, qui sont ceux qu'on va trouver par exemple dans Paris, les tout petits. Donc déjà, en termes de scaling, si tu arrives à avoir quelque chose qui scale au sein de ces trois unités, tu as quelque chose de très réplicable. Mais ensuite, la question que tu poses, c'est le go-to-market de tes fonctionnalités. Et une des premières discoveries que j'ai fait en magasin, donc c'est un truc génial, hein, tu te pointes à 6h du mat dans le magasin avant l'ouverture, et là, tu observes, c'est une fourmilière. Donc quand tu aimes la discovery, t'es à Disneyland, quoi. On venait pour essayer de... Il y avait une idée d'innovation qui avait popé au headquarter de Carrefour, et on voulait voir sur le terrain comment elle allait être reçue, etc. Et on s'est rendu compte qu'une partie du problème qu'on essayait de résoudre, il y avait déjà un produit qui avait été développé par Carrefour et il manquait le go-to-market. Et en fait, le go-to-market, c'est un problème essentiel. Donc, la façon de faire le go-to-market, par exemple, dans des équipes magasins comme ça, tu as des coachs, tu as tout un déploiement opérationnel donc, qui est fait par justement ces services business hein, qui sont ceux qui font le...
Oui, tu as des formateurs. Hein,
formateurs sur les outils. Et puis, tu as un enjeu de faire des outils qui sont en fait en self-service. Et finalement, dans cette discovery, on parlait à des collaborateurs de Carrefour qui travaillent en magasin. Ils nous disaient, non, on n'a pas encore eu la formation, mais on a l'outil. En fait, il est trop bien fait. Donc, tu n'as pas besoin de... Tu vois, ils savaient l'utiliser.
Tu n'as pas besoin
facile.
De vendre l'idée. Tu n'avais
pas besoin de faire la formation parce qu'en fait, le truc avait une bonne UX. Mais tu as ces enjeux-là de, oui, il va falloir déployer. Va falloir parfois changer des process opérationnels. Et donc là, il y a des équipes vraiment business qui travaillent avec toi. Mais ça veut dire que toi, quand tu fais du produit et du design et que tu réfléchis à ton go-to-market, si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas réussir à bien le faire, quoi.
Ça, je pense que ça s'applique à beaucoup de domaines, que ce soit création de nouveaux produits, création de nouvelles valeurs, changer une valeur actuelle. Le framework que nous, on essaie d'utiliser en interne dans mes équipes, c'est 10, 100, 1000, 10 000. Donc, quand on a une idée de comment améliorer truc X ou Y, on commence à bosser avec juste 10 clients. On bosse vraiment très, très, très proche avec eux. Ça va être plus l'approche discovery dont tu as parlé. Et là, il y a beaucoup de trucs qui en ressortent et il y a quelques trucs qu'on peut tester. Et puis après, il y en a quelques-uns qui commencent à marcher. Hop, on passe à 100. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 100? Et après, il faut tout changer. La partie support, on ne peut plus parler avec tout le monde sur Slack, des trucs comme ça. Et après, quand on arrive à 100, il faut passer à 1000. Alors, passer à 1000, bon, comment on fait que tout le monde puisse découvrir le truc? Est-ce qu'ils arrivent à onboarder là-dedans, etc., etc. Et après, de 1000 à 10 000, c'est encore d'autres problématiques. Mais souvent, il y a une... La différence, je pense, dans les grosses boîtes, c'est qu'il y a des produits qui marchent. Et il ne faut surtout pas, en essayant d'innover et de créer des nouveaux trucs ou d'améliorer, en fait, en même temps, de réussir un truc d'un côté qui va retirer de l'autre. Donc, cette approche graduelle, en fait, ça aide un peu à tester le rollout de manière très graduelle pour être capable d'en justifier l'impact et surtout l'impact sur la boîte, pas juste l'impact de l'idée en soi ou de la discovery ou ci ou ça. Et donc ça, je pense que c'est une approche c'est un muscle qu'il faut vraiment développer et qu'il faut formaliser ça. Comment est-ce qu'on passe de... Quelles sont les différentes étapes pour vraiment être sûr que l'innovation ou le changement va être positif?
On va prendre une dernière question et ensuite, je ne veux pas vous empêcher d'aller déjeuner parce que c'est l'heure du déj. Mais oui, une dernière question. Si quelqu'un... Ouais, vas-y.
les coachs qui dissimulaient ou voire former les équipes?
Alors,
on a effectivement un framework qui est défini et que l'ensemble des équipes suivent. On l'a adapté. Je pense que vous êtes tous, enfin, partagez tous ce point de vue-là. Surtout, on ne calque pas de méthode et framework sans l'adapter à son entreprise, à sa réalité business, parce que sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais chez Mythique, on a effectivement un cadre qu'on suit avec des objectifs au quarter, révisés toutes les 6 semaines, des fonctionnements pour chaque squad et que chaque squad bascule, et qui est organisé par des coachs agiles.
Et chez nous, c'est plutôt... donc l'organisation, elle est... en gros, il y a une équipe design, une équipe produit, une équipe ingénieur. Évidemment, c'est là qu'il y a le plus gros de la boîte. Et après, on est organisé en équipe produit ou plateforme. Enfin, en gros, un domaine cross-fonctionnel. Donc là, ça va être le squad qui va être classique. Hein, équipe d'ingénieur, product manager, designer, tout dans la même équipe. Donc il y a en permanence dans le boulot qu'on a, il y a deux parties, il y a ce qu'on contribue au produit sur lequel on bosse et il y a ce qu'on contribue au craft. Et la partie craft, c'est pas forcément, il y a pas forcément une méthode précise d'apprendre, mais
c'est en partage.
Il y a beaucoup de partage. Donc on se retrouve en product manager assez fréquemment. On coach d'autres product managers. C'est assez tentaculaire, on va dire comme approche, plutôt distribuée plutôt que top down. Mais on essaie de formaliser les trucs qui marchent bien. Et les trucs qui marchent bien, c'est toujours assez contextuel. Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que c'est un produit établi? Est-ce que c'est un truc plateforme aussi ou ça? Mais on discute beaucoup de ça, on essaie de le formaliser, on met tout ça dans des frameworks qui n'arrêtent pas de changer parce que...
Alors, ce que Petra appelle un community of practice.
C'est ça. Ouais. Donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais c'est... je pense qu'il y a un truc qui manque dans l'industrie, c'est qu'on parle beaucoup de produits, design, ingénierie. Et pour moi, ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à créer, c'est plutôt un framework sur les trois ensemble, ce que ShapeUp avait fait en fait. Mais continuer à réfléchir ça. Parce que c'est ça qui crée le plus d'impact, que ce soit petite amélioration, nouveau produit, phase 1, 2, 3. C'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne mieux. Faire de la discovery juste en tant que PM, ça ne sert à rien. Faire une discovery avec les ingénieurs, avec les designers, ça par contre, ça commence à devenir très, très impactful, des trucs comme ça. Mais on réfléchit en permanence sur ces problématiques-là. Ouais, il y en a beaucoup de blogs en interne qui sont en permanence en train de tout essayer de recréer.
Je sais pas si vous voulez rajouter un truc, Ben.
Peut-être un point, c'est... moi, j'étais arrivé chez Carrefour initialement pour faire de la formation, justement. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont organisées. Donc, au final, c'est plus de 200 personnes que j'ai accompagnées sur la discovery. Donc, avec un socle de formation de quelques heures en workshop, où on met un peu les mains dedans. Mais concrètement, quand on ressort, on a compris ce que c'était, mais on ne sait pas le faire en autonomie. Et beaucoup d'accompagnement ensuite sur les vrais projets. Mais au final, je crois que dans n'importe quelle boîte dans laquelle on arrive, une façon de maîtriser un petit peu et d'apprendre le métier pour quelqu'un aussi, ça passe par les rituels. Donc en fait, ShapeUp, par exemple, c'est un rituel. Donc quand on arrive, les gens qui devaient arriver chez Basecamp et qui découvraient ça, ils allaient apprendre le métier parce que tout le monde autour faisait ça et parce que ça fixait aussi les livrables et les niveaux d'attente que vous avez. Chez BlaBlaCar, on faisait la méthode focused de discovery discipline. Bah ça, c'est un rituel. Et en fait, en tant que manager ou que leader dans une organisation, il faut vraiment être très exigeant là-dessus. Parce que nous, c'est une des difficultés qu'on rencontrait chez BlaBlaCar, c'est que plus on faisait rentrer de gens, plus on se rendait compte que on avait du mal à maintenir le niveau de qualité,
quelque part.
Parce qu'on n'avait pas été vigilant sur le fait qu'il fallait former ces gens-là sur la méthode. Mais en fait, voilà, l'apprentissage va vraiment passer à 80%, 90% par ces phases où on fait le métier ensemble. Et donc ça passe aussi par les frameworks ou les rituels que vous utilisez. C'est ces moments où il faut avoir... je repense, c'est pas mal chez Conto où ils utilisent ce langage-là, ça m'avait beaucoup parlé. C'est un œil sur le sujet pour s'assurer que ce qu'on sort est bon, un œil sur la personne que vous êtes en train d'accompagner pour voir les compétences qu'elle est en train d'acquérir, les compétences qui lui manquent et qu'il va falloir qu'elle développe. Donc en tant que leader, je crois qu'il y a vraiment toujours les deux yeux qui regardent deux choses différentes. Parce que c'est en faisant le métier ensemble qu'on va leur développer. Et c'est en ayant tous le même langage et même framework, ça sert à ça, qu'on va tous atteindre des niveaux de qualité qui se ressemblent. Quoi.
Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on remercie mes invités. Donc merci beaucoup pour votre participation. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr. Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcasts ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Product Squad.